Languedoc, 95.5. Aujourd'hui, on est avec Louis Privat, fondateur des Grands Buffets à Narbonne. Adicias. Alors, monsieur Privat, les Grands Buffets, un incontournable narbonnais, audois, languedocien, occitan, français, européen même.
Et pourquoi pas.
Et même mondial, avec, depuis l'an dernier, inscrit officiellement sur le livre des records.
Voilà, une nouvelle dimension du restaurant Les Grands Buffets, avec ce record Guinness, qui reconnaît notre plateau de fromage comme étant le plus grand dans un restaurant au monde.
Alors, Les Grands Buffets, on va le rappeler pour les quelques incultes qui ne le connaissent pas ou qui étaient dans une grotte au cours des dernières années. Les Grands Buffets, d'où ça vient déjà cette idée ?
Les Grands Buffets, c'est une aventure qui a 30 ans maintenant. Nous avons démarré en 1989. Nous avons répondu à un appel à candidature par la mairie de Narbonne pour installer une structure de restauration au sein de l'espace de liberté, qui était un équipement tout à fait novateur pour l'époque et qui correspondait à un besoin essentiel, piscine, patinoire, bowling, donc ça concernait à la fois le grand public, les scolaires. C'était vraiment un équipement nécessaire pour Narbonne et qui a eu d'ailleurs un retentissement phénoménal, puisqu'il n'a pas concerné que Narbonne. Hein. C'était maître Hubert Mouly qui avait imaginé ce concept, qui s'était énormément renseigné pour faire un équipement qui soit à la fois à la mesure de l'ère narbonnaise, mais avec une véritable ambition. Et du jour au lendemain, l'Espace Liberté a connu un succès sur le public de Carcassonne, Perpignan, Narbonne, Béziers. Pour lancer cet équipement, il y a eu un appel à candidature auquel j'ai répondu proposer une formule de restauration. Et à cette époque-là, j'ai proposé donc une formule buffet à volonté. Et à cette époque-là, il n'y avait pas en France de restaurant indépendant qui propose de formule buffet à volonté. Nous avons été les premiers. La formule buffet à volonté était largement connue. D'abord parce que historiquement, elle s'inscrit dans l'histoire de la cuisine française et tous les repas officiels, les repas prestigieux jusqu'au 19e siècle se faisaient sous forme de buffet. Et c'était ce que l'on appelait le service à la française. Mais surtout, la formule buffet était connue du grand public par le club Méditerranée et par les grands hôtels clubs. Mais par contre, toutes les formules qui s'étaient essayées, les restaurants indépendants, j'en avais connu à Nice, j'en avais connu à Montpellier, aucun n'a réussi à trouver un modèle économique qui lui permette de survivre. Et on s'est lancé un petit peu à l'aventure, et avec cette formule buffet qui était bien entendu bien plus simplifiée que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Elle a évolué au fil du temps. Quand on a vu l'engouement qu'elle suscitait, au début, on était sur des produits beaucoup plus basiques des buffets. Et au fil du temps, nous avons fait évoluer cette formule.
Effectivement, évolution depuis 30 ans, maintenant, les grands buffets. À l'époque, c'était vraiment connu des Narbonnaises et Narbonnais comme ça, la cafétéria de l'espace Liberté. Vraiment, ça s'arrête là.
C'est exact, la cafétéria Liberté.
La cafétéria Liberté.
Oui.
Et c'est devenu, à un moment donné, les grands buffets, avec le mot grand, avec un G majuscule. Pourquoi justement avoir fait cette évolution de changer de, comme vous dites, de
produits basiques. C'est une véritable révolution culturelle que nous avons fait. Ça s'est passé en 2008. En 2008, on avait bien conscience qu'on avait un rayonnement très important, que nous avions fait évoluer notre formule vers plus de qualité et donc le public affluait de l'extérieur. Mais la terminologie de cafétéria n'était plus adaptée. Imagine-t-on un guide touristique qui va parler d'une cafétéria, arrêtez-vous à Narbonne dans une cafétéria, ça n'avait plus de sens. D'autant que la notion même de cafétéria, nous n'avons jamais été une cafétéria. C'était une façon de se présenter à l'époque par rapport à un marché qui était un marché d'une restauration relativement économique. Mais depuis toujours, on a accueilli les clients, on les a installés à table, on a pris une commande, on leur a pris la commande des vins, on leur a, bien sûr, ils se levaient pour aller se servir au buffet, mais on débarrassait les assiettes. Ensuite, on venait prendre la commande des cafés, on amenait le café, on amenait l'addition à table. Donc, cette cafétéria avait tout d'un restaurant, en réalité. C'était un restaurant déguisé. Et en 2008, nous avons affirmé cette position et surtout, j'ai imaginé que pour pouvoir avoir un rayonnement supérieur et pourquoi pas à l'international, et dans tous les cas au plan national, il fallait changer de nom. Non pas la formule, parce que la formule est restée la même. On a changé et amélioré le décor, certes, mais la formule est restée la même. Mais on l'a surtout beaucoup enrichie, et on l'a enrichie au fil du temps. Au fur et à mesure que nous apportions des améliorations et que l'on voyait que le public préférer la version améliorée, certes toujours un petit peu plus chère, parce que apporter des améliorations, il faut bien sûr que le prix soit répercuté, mais le public préférait, on va dire, la version avec les huîtres, un petit peu plus chère que sans les huîtres, la version avec le foie gras, toujours un petit peu augmenté que sans. Et donc, cette évolution successive qui, en aucun cas, ne pouvait s'accomplir en une seule fois, il a fallu que le public nous accompagne pas à pas et valide toutes les étapes de nos évolutions. Donc voilà pourquoi en 2008, on change de nom, on fait évoluer notre formule, on propose une rôtisserie panoramique avec une gamme de plats chauds différentes. Et depuis, nous n'avons cesse de faire évoluer cette formule vers plus de qualité. Et l'interruption du Covid nous a permis d'écrire la dernière page de ce livre, et le dernier chapitre, en quelque sorte, où on a amélioré et agrandi la rôtisserie, on a étoffé notre gamme de plats en proposant le lièvre à la royale, en proposant enfin le canard au sang, puisque j'avais depuis de longue date acheté la presse à canard de la Tour d'Argent, en promettant au public qui me réclamait, qui me disait « Mais quand est-ce que vous allez mettre le canard au sang à votre carte ?» Il fallait faire des transformations, il fallait agrandir l'espace de la rôtisserie pour pouvoir accueillir une magnifique table et faire tout ce cérémonial dans les règles de l'art devant le public. Et donc le Covid, en quelque sorte, a provoqué l'accélération de cette métamorphose, puisqu'on a fait le choix, pendant la fermeture, de faire des travaux. Et nous avons réouvert avec, je dirais, la gamme maintenant complète des offres de gastronomie que nous souhaitions proposer au public.
Alors, qualité, on va en parler aussi, effectivement, avec voilà, les vins, vous faites affaire aux viticulteurs locaux. Qualité aussi avec tous les producteurs locaux pour les produits. Quantité, vous l'évoquiez, avec l'ensemble de ce qui est possible et imaginable en termes de plats, en termes de charcuterie, de fromage, maintenant aussi avec ce plus grand plateau du fromage au monde. Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. C'est une offre très complète. On veut être un peu le répertoire, le catalogue de la cuisine traditionnelle française. Donc, et surtout de la cuisine de fête. C'est, les gens qui viennent chez nous, c'est pour célébrer un moment important. Et donc, que ce soit les arts de la table et dans tous les cas, vivre un moment d'exception. C'est véritablement notre projet. Alors, oui, le répertoire de la cuisine classique française et la cuisine de fête. Alors, c'est bien sûr les fruits de mer. Dans les fruits de mer, ben, c'est le plateau royal avec le homard. Mais généralement, un repas de fête se prolonge avec des foie gras. Eh bien, on en propose neuf. Bien sûr, qui dit repas de fête, dit gros repas. Donc, la charcutaille, les charcuteries, les pâtés en croûte, les terrines maison. Donc, voilà la succession. Et ensuite, on se transporte à la rôtisserie. Là, on va y trouver, là encore, le homard à l'américaine. Mais les plats les plus prestigieux de notre répertoire de cuisine classique, le lièvre à la royale, le canard au sang, le vol au vent avec morille et riz de veau, le tourne de Rossini, enfin toute une gamme, j'allais dire infinie, ça n'est pas infini, mais c'est très très complète du répertoire de la cuisine classique française. Avec l'intérêt, c'est qu'une bonne partie de cette cuisine est élaborée devant vous. Donc on passe la commande au cuisinier qui lui-même passe la commande à sa brigade qui lui répond « Oui, chef, selon la tradition ». Et immédiatement, la brigade se met à réaliser le plat. Ça peut aller de l'omelette au cèpe où on va battre devant le client les œufs et pour faire l'omelette au tourne de Rossini ou au homard à l'américaine avec toute cette gamme donc, de plats que je cite. L'huître gratinée, enfin c'est un catalogue très 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 complet et nous voulons être d'une certaine manière le conservatoire de cette cuisine classique qui, il faut bien le reconnaître, a déserté un peu les tables de restaurant et y compris les tables familiales. Aujourd'hui, de moins en moins, on trouve de têtes de veau ravigotes, de tripes à l'ancienne, de blanquettes de veau, de civets de sanglier, de daubes de bœuf. Donc tous ces plats que nous proposons disparaissent un petit peu et on le comprend parce que tout le monde n'aime pas la même chose. Maintenant, plus on avance, plus les gens ont un goût particulier. Certains vont pouvoir ou préférer manger végétalien ou végétarien. D'autres vont être plutôt orientés sur les poissons. Donc on s'attache à arriver à faire que pour chacun et toutes les particularités de l'alimentation soient présente dans notre restaurant. C'est-à-dire sur une table de 8 personnes, par exemple, il faut qu'on arrive à faire le bonheur de 8 personnes.
Alors, c'est peut-être un secret que je vais vous demander, mais comment vous faites pour proposer tout ça et d'arriver à tenir financièrement aussi? Parce qu'un restaurant classique va galérer, proposer 20 plats différents. Vous en proposez, je ne sais même pas de les compter, tellement il y en a.
Nous non plus, on a cessé de les compter. On les fait, mais on ne les compte pas. Je crois que, vous savez, récemment, un jeune restaurateur est venu me questionner parce qu'il me disait, voilà, je souhaiterais faire une formule buffet à volonté du côté de Perpignan. Est-ce que vous pourriez me donner quelques conseils? Et un en particulier que je lui donnais, je ne m'autorise pas à être plus compétent que d'autres, mais celui-ci me paraît essentiel. Pour faire un buffet à volonté, il faut avoir une clientèle et un niveau de fréquentation constant. On ne peut pas un jour avoir 30 couverts, l'autre jour en servir 150 et le jour d'après 200, parce que le buffet, lui, doit être toujours le même. Donc c'est effectivement avoir la capacité d'accueillir et donc d'être suffisamment connu, de faire le travail suffisamment sérieusement, de telle sorte qu'on a un flux constant. Le vrai secret, il est là. Si vous avez une moyenne soutenue de clients, vous savez exactement ce qu'il vous faut produire pour les clients qui vont venir. La comptabilité analytique, ça fait partie véritablement du métier de restaurateur. Il faut être capable d'établir des quantités prévisionnel et chez nous, tous les responsables de cuisine, les chefs de partie, le chef pâtissier, le chef cuisinier, le chef à la rôtisserie, chacun sait qu'en fonction du nombre de couverts, il va y avoir telle consommation. Et donc, finalement, plus on a de monde, plus on peut se permettre de faire une offre diversifiée et variée, parce qu'on sait que sur l'ensemble des convives et des gens accueillis, eh bien, tous ces plats trouveront preneur. Et ça, c'est très important parce que vous savez, on imagine que la formule de buffet à volonté pourrait être une source de gaspillage. Ça n'est pas du tout le cas chez nous. Les sources de gaspillage, ça pourrait être déjà le comportement du client. Est-ce que le client a les yeux plus gros que le ventre, remplit des assiettes pour les jeter? Pas si vous avez un vrai niveau de service, si chez nous, la personne est accueillie par un accueil, installée à table par un maître d'hôtel qui va prendre la commande. Vous avez un chef de rang qui va être attaché à cette table et au parcours et au déroulement du repas pour débarrasser, pour amener le vin. Donc le public, évidemment, vient pour célébrer un moment de qualité chez nous et se comporte à la mesure du niveau de service. Donc aucun client n'a envie de passer pour quelqu'un de mal élevé ou un gaspilleur en laissant son assiette pleine. Donc les gens se gèrent véritablement. Donc la source, finalement, de perte de produit ne peut pas venir du client. Alors est-ce qu'elle peut venir de l'organisation du restaurant? Eh bien non, parce que, comme je vous l'expliquais, nous avons ce volume constant qui fait qu'on sait exactement les quantités qui vont être consommées, qu'on a le public à midi et le soir, donc évidemment il y a cette continuité, et puis il ne faut pas perdre de vue que nous avons 180 collaborateurs qui ne sont pas tous présents évidemment en même temps au Grand Buffet puisqu'on est ouvert 7 jours sur 7, mais nous faisons manger au moins 100 collaborateurs à chaque service, ce qui fait que certains produits sont immédiatement reconditionnés et proposés à nos collaborateurs, ce qui fait qu'on peut imaginer que la perte de produits au Grand Buffet est sûrement nettement inférieure à ce que l'on peut connaître dans d'autres établissements. Et puis vous parliez de comment y arriver. Au fil du temps, on a aussi compris et fait des prises de conscience par rapport à notre environnement de proximité. Donc on s'approvisionne beaucoup en proximité, que ce soit l'huile, que ce soit les huîtres, que ce soit l'agneau de lait des Pyrénées, que ce soit la filière canard du Sud-Ouest. Donc on est très attaché à ce, le mot est barbare, hein, c'est le sourcing des produits, mais qu'ils soient principalement de proximité. Ça n'est pas vrai, bien sûr, pour tous les produits qu'on est obligé d'aller chercher à l'extérieur. Mais je crois aussi que ce principe-là est un élément fondateur de notre offre de restauration.
Monsieur Privat, on va marquer une courte pause musicale avant de parler justement du métier de restaurateur depuis un an et de ce que vous avez fait depuis un an plus en détail. On s'écoute une petite musique classique.
Avec grand plaisir.
De retour, toujours avec Louis Privat, fondateur des Grands Buffets de Narbonne. Monsieur Privat, depuis un an, les restaurateurs vivent dans une crise.
Les restaurateurs ont souffert, voilà. On peut le dire.
On souffre et continuent encore de souffrir. C'est pas encore fini.
C'est juste.
Le Covid est arrivé à la mi-mars dernier, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Vous, en étant une grande institution, comme les Grands Buffets qui ouvrent les réservations un an à l'avance. Voilà, on vous dit du jour au lendemain, bam, monsieur, vous devez fermer. J'imagine que probablement c'est un pincement au cœur juste de voir effectivement tout le travail accompli et puis tous ces clients qui finalement ne peuvent pas venir.
Alors effectivement, ça a été une période très difficile, mais peut-être pas exactement comme vous l'indiquez, c'est pas quelque chose qui est tombé comme ça. Tout simplement parce que j'avais une telle conscience de la gravité de la situation que j'avais demandé à la préfecture de nous fermer par décision administrative. Tant j'avais conscience qu'il était difficile, dans cette période où on parlait d'une propagation du virus très importante, il me paraissait difficile de protéger les clients parce qu'ils venaient de toute origine. On parlait à l'époque de l'Alsace. Et tout ça. On avait des clients qui venaient là. On avait des clients espagnols. On avait les enfants qui jouaient dans le coin enfant. Donc je trouvais que c'était à haut risque pour le public, mais beaucoup pour les collaborateurs. Donc déjà, en anticipant énormément par rapport aux mesures barrières dont on a pu parler, nous, on était déjà dans cette logique-là. J'avais recruté des personnes qui étaient strictement chargées de nettoyer tout ce que le public pouvait toucher, les portes d'entrée, les balustrades, les mains courantes des buffets, les ustensiles, on les remplaçait.
Parce que c'est vrai, en plus, que les grands buffets, contrairement à d'autres restaurants classiques, où les gens s'assoient à une table et puis c'est fini de bout en bout, il y a un mouvement permanent au Grand Buffet.
Exactement. Les gens se croisent, les gens échangent. Donc, on a été extrêmement vigilants. Je pense que les choses, pour nous, se sont relativement bien passées, puisqu'on n'a eu aucun cas signalé de Covid ou de cas contact chez nous pendant toute cette période qui a précédé donc la fermeture. Et arrivé à un certain point, dans le souci de protéger mes collaborateurs, j'avais demandé d'abord à la sous-préfecture, et puis après j'ai échangé avec la préfecture, en vue d'une fermeture administrative. Je ne savais pas que le gouvernement préparait une fermeture au couperet, parce que, vous voyez, plusieurs jours avant, je demande une fermeture, ce qui nous aurait permis de nous organiser. Or, un certain samedi, on nous apprend à 19h qu'à 23h, on sera fermé. Donc là, il n'y a pas eu de délai. On peut imaginer que les choses se passent autrement et permettre aux restaurateurs de mieux s'organiser. Enfin, on a donc vécu cette situation comme ça. À partir de là, on a fermé. Et là, on a réfléchi autrement. Et on a imaginé quel pouvait être le futur dans ce contexte-là.
Alors, ce futur, justement, vous avez rouvert brièvement, malheureusement, au cours de l'automne dernier. Ça a été la seule période, finalement, où vous avez pu travailler avec du public. Tout ce temps-là que vous avez fait, entre le premier confinement, le deuxième confinement, puis depuis la fermeture là, en fin novembre, début novembre, vous vous êtes consacré à des travaux, et des grands travaux.
Oui, absolument. D'abord, il faut dire que des grands travaux, ça veut dire des grands financements. Donc, il se trouvait que j'avais déjà mis en place des financements pour faire des travaux qui devaient s'étaler sur plusieurs années. Mais pour être sûr d'avoir les financements, je les avais déjà sollicités. Donc, je me suis trouvé, au moment de cette fermeture, avec les moyens de faire les travaux. Ça, il faut le préciser. Et d'ailleurs, on a été particulièrement suivi par les banques dans cette démarche. Alors, oui, j'ai fait le choix, alors que les restaurants réouvraient en juin, de ne pas réouvrir. D'abord parce que j'ai considéré que le public, après le Covid, n'aurait plus du tout le même regard, en particulier pour des buffets, que ce qu'il avait avant, que les mentalités allaient changer. Peut-on imaginer aujourd'hui de mettre 40 enfants en train de jouer dans un espace exigu, des enfants qui viennent du Nord, de l'Est, d'Espagne ou d'ailleurs? Je pense que les parents ne souhaitent plus ce type de situation. Donc, évidemment, le coin enfant était à revoir. Le coin glace, où le public se passait de main en main des spatules pour se faire lui-même sa coupe de glace, on a réimaginé ça. Les espaces de la rôtisserie, qui étaient relativement exigus, où les gens étaient un petit peu les uns sur les autres pour passer la commande auprès des rôtisseurs, eh bien, nécessité d'être agrandi. Les buffets eux-mêmes, où les gens vont se servir, j'ai pensé qu'il était souhaitable de mettre des protections, comme on le voit ailleurs. Mais comme, de mon point de vue, on a besoin maintenant de rassurer le public, et sur le long terme, pour moi, à aucun moment j'ai imaginé mettre une protection provisoire pour l'enlever, le truc en plexiglas que l'on met, qu'on dépose une fois que le risque est passé, non. On a fait concevoir par la Maison Félix, qui est des spécialistes en travail de haute précision sur l'orfèvrerie et également le travail du laiton, on a fait des parements qui viennent s'interposer entre le client et le produit. On appelle ça des paralènes qui, justement, permettent d'éviter les projections sur les aliments. Mais ça a été des gros travaux de conception, de réalisation, plusieurs mois. D'abord, il faut les dessiner, il faut les imaginer, il faut faire des prototypes, il faut les installer. Donc, j'ai pensé qu'il était nécessaire de rester fermé pour pouvoir adapter l'établissement à une nouvelle vision du public et véritablement, lorsqu'il reviendrait, qu'il soit totalement rassuré par notre politique et par des changements. Donc on a supprimé le coin glace pour faire un glacier derrière lequel il y a des collaborateurs qui servent. Il a fallu qu'on forme tout un tas de collaborateurs qui maintenant sont des présentateurs de produits qui peuvent accompagner sur tous les thèmes des buffets, à chaque plot, qui vont accompagner le client. Le client peut bien sûr se servir et on changera à plusieurs reprises les ustensiles pendant le service. Mais dans tous les cas, il y a une personne qui peut accompagner, couper et servir le client s'il ne souhaite pas lui-même se servir. Il a fallu qu'on prévoie un protocole très, très, très précis pour le public. On a installé un tunnel de décontamination qui prend la température, qui désinfecte les mains, qui envoie des vapeurs sèches d'ozone et de produits bactéricides. Avant l'entrée du public, on a mis au point un protocole extrêmement strict, bien avant la lettre, c'est-à-dire que moi, je ne comprenais pas pourquoi un enfant de moins de 10 ans pouvait aller sur le buffet sans masque alors qu'on le demandait à ses parents. Est-ce qu'il y avait un risque différent? Et on voit bien maintenant, avec la propagation du virus dans les écoles, que les enfants aussi sont concernés par la propagation du virus et par la contamination. Donc j'ai voulu que tout ça soit réfléchi, qu'il y ait des stations de désinfection dans tout l'établissement, que l'on mette des protocoles et que l'on va maintenir. Au niveau de nos collaborateurs, aucun serveur, on appelle chez nous, ce sont des chefs de rang, ne peut aller à une table et passer à une autre. Il est obligé, lorsqu'il fait un geste de service sur une table, d'aller se décontaminer les mains pour pouvoir accéder à une autre table. Il n'est pas question que le serveur navigue de table en table pour débarrasser des assiettes. Donc tout ça, ça a fait l'objet de réflexions, d'organisation, évidemment, de recrutement, parce qu'il faut plus de personnel pour arriver à avoir ce niveau de fiabilité, et d'écrire une règle du jeu qui s'impose à tous les collaborateurs des grands buffets, mais qui s'impose au public. Voilà pourquoi on a arrêté aussi d'accepter le passage. Quand on avait des tables libres, le public qui se présentait, on l'accueillait. Pourquoi je ne veux plus? Parce que je souhaite que le public valide notre protocole sanitaire. C'est-à-dire qu'il réserve par Internet et là, on lui confirme sa réservation et on lui explique quelles sont les règles auxquelles il sera obligé de se soumettre pour pouvoir venir manger chez nous. C'est d'accepter le principe de passer dans ce tunnel de décontamination, accepter de se décontaminer les mains, le port du masque, le port du masque pour les enfants, la décontamination à l'entrée des buffets et en sortie des buffets. Tous ces protocoles-là, on veut à tout prix qu'ils soient validés et acceptés par le public avant de venir chez nous. Donc voilà pourquoi quelqu'un qui vient maintenant spontanément et qui dirait « mais après tout, moi je ne souhaite pas faire ci ou je ne souhaite pas faire ça », on a souhaité l'éliminer.
Alors, des travaux donc pour protéger les clients, aussi pour protéger vos équipes, des travaux d'embellissement, si tout simplement, il faut le dire, voilà, des travaux d'embellissement et des ajouts qui ont été faits pour vraiment encore ajouter un effet « waouh » quand on arrive.
Je crois que le public qui a connu les grands buffets avant le Covid et qui va maintenant le découvrir sera très surpris. Le coin de la rôtisserie a changé. On a installé des magnifiques tables à gibier. Il y a tout un spectacle avec les éclairages et du personnel qui est posté derrière les tables pour faire le cérémonial du canard au sang, pour proposer la côte de bœuf gargantueuse qu'on découpe devant le client. Mais pas que. Il y a le glacier où on a créé un univers de marbre, de verre, de laiton, avec des luminaires anciens, un lustre ancien. Enfin, c'est vraiment un vrai univers. On a créé une galerie, Alain Bélanger. On a créé le Salon Doré. Ça, c'est un véritable geste de décor qui est assez unique, puisqu'on a fait intervenir les ateliers de France. C'est des compagnons qui sont habilités à intervenir sur les grands palais nationaux, sur les grandes demeures historiques. Et avec eux, on a créé, à l'identique de ce qui aurait été fait au niveau des techniques au XVIIIe siècle, un salon avec des grandes colonnes, avec des dorures, avec des lustres en cristal. Donc là, c'est un univers que l'on a dédié à Jean de La Fontaine. Il se trouve que c'est l'année de l'anniversaire, son 400e anniversaire. Donc là, pour nous, Jean de La Fontaine, c'est un artiste incontournable parce qu'il est grand public, parce que beaucoup de ses fables traitent de la nourriture. Hein, c'est souvent des scènes qui ont quelque chose à voir avec le repas, avec l'alimentation. Donc, on a créé ce salon doré avec où on a reproduit des peintures, des reproductions à la main, des grandes œuvres d'Oudry. Oudry était l'illustrateur de Jean de La Fontaine. Et donc, ce salon doré est fini depuis le mois de novembre. Il n'a pas accueilli son premier client encore. On a hâte de voir comment le public va réagir à ce décor majestueux. Voilà, entre autres transformations aussi, on a amélioré le décor justement de la salle qui accueillait le coin enfant. Puisqu'on a supprimé le coin enfant, eh bien on l'a enrichi d'un décor très art déco avec une statue monumentale d'un grand artiste des années 20 qui avait d'ailleurs été exposé à l'exposition universelle des arts décoratifs, Max Le Verrier. Et en entrant en relation avec ses descendants, son petit-fils, on a réussi à réunir une collection des œuvres de Max Le Verrier, que ce soit des œuvres graphiques, des travaux préparatoires à ces sculptures, et un ensemble de sculptures assez impressionnant.
Alors, on a la salle à manger qu'on a tous connue dans le Grand Buffet. On a la salle à manger Max Le Verrier. Maintenant, on a le salon doré. Bon, personne n'a encore vraiment vu. On a le jardin aussi, avec les terrasses.
Qui reste une surprise, puisqu'on est en train de le Exactement. Remanier complètement. On l'a connu, j'en étais très très fier, parce que c'était vraiment, en termes végétal, c'était extraordinaire. C'était un écrin végétal avec des fleurs. C'était André Guéraud, un paysagiste international, qui avait imaginé ça. Et au cœur de ce jardin, il y avait la fontaine avec les sculptures d'Hervé Di Rosa. Eh bien, compte tenu des bâtiments nouveaux qui ont été prélevés sur la terrasse, il a fallu qu'on repense la terrasse complètement pour lui redonner une vie. Et tant qu'à faire, on a essayé de faire quelque chose de différent. Donc, j'y étais encore ce matin. Il y a un artiste qui s'appelle Laurent Veil qui fait quelque chose. Alors, je dis juste le mot et puis après, on peut imaginer ce que c'est. Il nous fait une galerie de fer sauvage. On imagine une canopée en ferraille. Enfin, c'est un geste artistique de grande qualité. Et vous verrez, cette terrasse va revivre une deuxième vie. Ça va être assez étonnant.
Bon, Monsieur Privat, on a beaucoup de choses encore à se dire. On va marquer une nouvelle courte pause musicale et on se retrouve de suite après.
J'ai longtemps parlé de vous. J'ai longtemps
rêvé de vous parler, chérie.
C'est ça. Avant de vous connaître, je vous avais vue brillante au fond des nuits, de tous mes rêves champêtres. Ou dans la campagne comme aujourd'hui. Oui, mais j'ai perdu la tête. Ma chanson commence quand elle finit. Le grand amour
me rend bête.
Vous êtes jolie, mon petit oiseau. Près de vous les fleurs ne sont pas si belles. La source qui coule, les fraîches eaux n'ont pas votre voix. Vous riez mieux qu'elle. Que dire de vos yeux si doux? Que dire de vos mains, de vos cheveux, de tout votre corps jaloux, de tout l'amour que je veux? Vous êtes pour moi la petite fée, le petit oiseau de mon cœur qui vous aime. J'ai inventé pour vous des mots et des chansons, bien avant de vous connaître, bien sûr. Je vous les lisais souvent dans les buissons,
le soir à ma fenêtre. Mais tous ces grands airs, ces opéras, maintenant je les oublie.
Oui, moi aussi.
Et cette chanson s'arrête là, parce que vous êtes jolie. Vous êtes jolie,
vous êtes jolie,
mon petit oiseau, près de vous les fleurs,
près de vous les fleurs,
ne sont pas si belles,
non, ne sont pas si belles,
la source qui coule,
la source qui coule,
et les fraîches eaux,
et les fraîches eaux,
n'ont pas votre voix, vous riez mieux qu'elle.
Que dire de vos yeux si doux, que dire de vos mains, de vos cheveux, de tout votre corps jaloux, de tout l'amour que je veux. Vous êtes pour moi la petite fée, le petit oiseau de mon cœur qui vous aime. Vous êtes joli, mon petit oiseau. Vous êtes joli, mon petit oiseau. Quelle couleur il est, cet oiseau?
Bleu.
Voilà, de retour. On a aussi la tente d'apparat, Jean-Baptiste Nolin, avec aussi là ce mur de végétation, de cascade d'eau aussi à l'intérieur. Quoi d'autre?
Quoi d'autre maintenant? C'est beaucoup. Vous savez, on cite le décor, c'est l'aspect matériel des choses. Et le décor nous a pris beaucoup de temps. C'est de la conception, c'est beaucoup de mise en œuvre. Il y a une équipe là derrière ça qui est fantastique, qui est Éric Martin, architecte, et Michel Callas, architecte intérieur. Donc Éric Martin, c'est avec lui qu'on avait fait le premier projet qu'on avait présenté à la mairie à l'époque du Bermouli, il y a 30 ans, et qui suit les grands buffets pas à pas, et qui a participé donc à toutes les démarches de conception et à toutes les évolutions. Mais là, on parle du matériel. Le temps que nous mettons à profit de cette fermeture, maintenant, on le met sur l'immatériel. C'est-à-dire, c'est travailler, de travailler encore l'accueil, de travailler encore le professionnalisme, de telle sorte qu'on était réputé pour proposer au public un véritable accueil chaleureux, bienveillant, souriant. Eh bien, je pense qu'il y aura quand même un avant et un après. Nous travaillons tellement sur ces sujets-là, en atelier, avec nos collaborateurs, dans l'enthousiasme, hein, parce qu'on a vraiment l'ambition, en fait. Je vais le dire très simplement, avec beaucoup d'humilité malgré tout, mais il y a une très forte ambition derrière. Le moment que l'on souhaite faire vivre au public, c'est le meilleur moment qu'il ait jamais passé dans un restaurant, en termes de décor, mais maintenant aussi le côté immatériel, en termes d'accueil.
On sent qu'en fait, le Covid, d'une certaine façon, pour vous, ça a été, je mets des guillemets en disant ça, bénéfique, dans le sens où voilà, vous avez pu faire, vraiment, pendant cette période d'inactivité avec des clients, de restauration, vous avez pu consacrément ce moment faire tout ce que vous vouliez faire.
Je suis d'accord, on ne l'a pas voulu, hein, on est bien d'accord sur ça. Mais imaginez de rester tout ce temps sans rien faire, ce n'était pas pensable. Donc on a bien sûr enrichi le décor, bien sûr travaillé notre savoir-faire, travaillé l'assiette, travaillé les produits. Et de toute évidence, il y aura un avant et un après. L'établissement ne sera pas du tout le même et pas perçu de la même façon par le public. Et c'est ce qui me réjouit, c'est que, bien sûr, ceux qui n'ont pas connu les grands buffets avant, ils vont avoir l'effet que l'on connaît. C'est-à-dire quelqu'un qui vient au grand buffet est toujours un peu surpris par la mise en scène, par la qualité des décors, par la profusion des produits. Mais ceux qui sont déjà venus, eh bien, je pense qu'ils seront tout autant surpris que ceux qui viennent pour la première fois. Parce qu'ils verront des choses tellement différentes, tellement nouvelles et tellement poussées dans la qualité que je crois qu'ils auront aussi une forte charge d'émotion.
Et je crois d'ailleurs qu'il y a encore de la place un peu pour pousser les murs au Grand Buffet. Il y a des endroits un petit peu vers l'arrière où il y a d'autres projets qui peuvent se faire un peu plus en profondeur, un peu plus...
Voilà, on a encore, je vois que vous rentrez dans les secrets des dieux, donc oui, effectivement, mais c'est toujours un peu délicat de parler de choses qui sont encore qu'à l'état de conception, mais oui, on travaille à créer dans la roche une cave d'affinage. Je travaille également à créer un vrai atelier de boulangerie où on pourra voir le mitron en train d'enfourner le pain et de le livrer dans chaque salle du restaurant. Mais on va dire que dans une phase 1, on va déjà relancer notre machine, on va se reconstruire économiquement parce qu'on n'en parle pas, mais il faut voir que tous les restaurants souffrent aujourd'hui et c'est difficile de passer ce cap. Donc il va falloir, on est aidé, il faut bien reconnaître qu'il y a le chômage partiel, qu'il y a le fonds de solidarité. Donc bien sûr que cet accompagnement est absolument nécessaire, mais à l'ouverture, nous aurons le besoin de nous reconstruire économiquement, de réaccueillir le public et de bien démontrer que la machine redémarre comme il est souhaitable qu'elle le fasse.
Retrouver des habitudes.
Retrouver des habitudes. Alors on est tout à fait rassuré par le niveau des réservations. Nous, le public réserve encore en quantité sur les périodes à venir, puisque les réservations sont ouvertes pour les 12 mois. Donc on voit bien que des gens réservent pour le mois de juillet, juin, octobre, même février prochain. Donc on a un vrai engouement du public.
Donc il y a encore de la place pour réserver en 2048.
Oui. Alors, la réservation depuis longtemps est déjà un vrai sujet chez nous et que le public maintenant a compris qu'il faut essayer d'anticiper, s'y prendre un petit peu avant. Mais deux mots peut-être de ces restaurations et de ces restaurants qui souffrent aujourd'hui. On en fait partie, hein, on n'est pas hors système, mais même si on a fait ces gros travaux qu'il a supposé qu'on avait les moyens de les faire, oui, parce que j'avais prévu les financements pour ça, mais après, il faut qu'on se reconstruise économiquement. Et je voudrais qu'on ait une pensée pour tous les collaborateurs des restaurants. Parce qu'on dit que les restaurants sont fermés, mais on ne met pas l'humain au centre du débat. En réalité, ce que veut dire ce terme, les restaurants, ce n'est pas une entité économique, ce sont des restaurateurs qui souffrent, et pour certains, qui ne prennent pas leur rémunération, et donc qui ont véritablement du mal. Et puis après, vous avez les centaines de milliers de collaborateurs qui sont en chômage partiel et qui n'ont pas forcément la totalité de leur salaire songé au serveur, dont, par exemple, les pourboires sont une partie non négligeable de leur salaire. Et tout ce public-là qui souffre et qui est un peu sacrifié, c'est-à-dire qu'il y a ces gens-là ne travaillent pas, voient leur pouvoir d'achat fortement diminué, tout simplement pour une question d'intérêt national et une cause nationale sanitaire, alors qu'on a su saluer le personnel soignant, on a les métiers qui étaient en première ligne. Eh bien, moi, j'aimerais que l'on prenne en considération toute cette profession de gens qui souffrent actuellement. Alors, au Grand Buffet, c'est un petit peu différent, parce que j'ai fait le choix, dès le départ, de maintenir le pouvoir d'achat de tous les collaborateurs, donc les Grands Buffets. Et donc, ça veut dire que derrière, il faut le supporter économiquement. Et donc, la reconstruction sera d'autant plus difficile pour nous. Mais j'ai voulu que tous les collaborateurs aient leur pouvoir d'achat 100% maintenu.
On le rappelle ? Combien, justement, de collaborateurs au Grand Buffet ?
180 collaborateurs aujourd'hui, et nous avons recruté une trentaine de personnes pour la réouverture, de telle sorte que le public puisse être servi, accompagné au niveau des buffets. Il faut savoir que pour une personne présente au buffet, c'est deux recrutements, c'est deux employés qui vont se succéder, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Donc un poste créé veut dire deux recrutements. Donc on a une vraie culture de l'entreprise et de l'échange et de la participation avec nos collaborateurs. Ce qui fait que, dès que le Covid, on a connu cette période de fermeture, j'avais annoncé au départ qu'il n'y aurait pas de perte de pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que les entreprises sont aidées et que je ne trouvais pas tout à fait normal que ce soit, finalement, les collaborateurs qui soient les seuls à faire un effort. Donc, eh bien, on les accompagne et l'effort est réparti, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'ils ont le 100% de leur rémunération. On avait un contrat d'intéressement qu'on ne peut pas servir parce que nous n'avons pas d'activité. Pensons aux serveurs qui n'ont pas les pourboires. Et ce n'est pas négligeable, hein, dans l'équilibre économique. C'est un élément déterminant dans le fonctionnement économique de nos chefs de rang et serveurs et maîtres d'hôtel. Donc voilà, on essaie de les accompagner, mais je pense aussi à beaucoup d'établissements qui n'ont pas forcément la capacité de le faire. Et donc ça veut dire que vous avez toute une partie de l'économie, de collaborateurs dans cette branche d'activité qui souffrent. Et il faut penser à eux.
On le sait, la crise de toute façon est toujours là, un an après. On est... Allez, grosso modo, fermé depuis un an, les restaurants sont fermés depuis un an, même s'il y a une petite réouverture, on peut l'oublier, ça n'a pas été grand-chose. C'est pas fini, et il y en a beaucoup qui vont clairement mettre la clé sous la porte. Ça a déjà commencé.
Alors, moi, je ne dispose pas de données économiques sur le sujet, ni de statistiques. On sait que c'est dur. Tout ce que l'on peut espérer, mais je crois que tous les signes sont positifs dans ce domaine-là. Je pense que lorsque les restaurants vont réouvrir, il va y avoir un véritable engouement. Il va y avoir véritablement une forme d'euphorie parce que le public a besoin de ça. A besoin de renouer le contact avec des activités de loisirs, avec des activités culturelles comme la gastronomie, les arts de la table. C'est des moments dont on ne peut pas se passer. Ça ponctue notre vie de tous les jours, les anniversaires, les fiançailles, les baptêmes. Donc évidemment qu'il va y avoir... Une dynamique. Donc on suppose que cette dynamique permettra à tous les établissements, même ceux qui ont le plus souffert, de se reconstruire rapidement. Il faut l'espérer comme ça. Ce qui peut poser problème, c'est que lors de la réouverture, on nous impose des règles qui nous mettent dans des situations économiques de déséquilibre. J'ai entendu parler d'ouvrir à midi et pas le soir. J'ai du mal à comprendre pourquoi le public serait en danger le soir et ne le serait pas à midi. J'ai entendu parler de travailler avec des demi-capacités. Alors, je peux comprendre que pour éviter que le public ne se contamine, on va réduire la capacité. Mais est-ce que c'est moins dangereux pour un serveur de servir une table alors que le restaurant est rempli à moitié ? Non. Donc, on voit bien qu'on est dans des schémas qui ne sont pas tout à fait cohérents, où il y a un réel danger. Auquel cas, moi, je préconise de ne pas ouvrir et de qu'il y ait une solidarité nationale qui accompagne les établissements qui sont fermés économiquement. Et si on considère que les conditions sanitaires sont satisfaisantes, elles sont globalement et totalement satisfaisantes. Donc, moi, je serais plutôt dans une ligne où on dit « attendons s'il faut légèrement plus longtemps ». Mais laissons ouvrir les établissements dans un mode de fonctionnement rationnel. Donc oui, que les serveurs puissent servir normalement les tables en respectant des protocoles bien sûr très stricts et qu'on ne nous explique pas qu'un client de midi est hors de danger et un client du soir est à haut risque. Je ne le pense pas comme ça.
Le virus ne se lève pas à 18h.
Non, je pense pas que... Non, on ne va pas l'assimiler à un vampire qui ne sortirait que la nuit et qui se cacherait dans la lumière du jour. Non, je ne crois pas.
Et de toute façon, on le rappelle, si de toute façon, à la minute même où un restaurant déciderait de rouvrir, avec toutes les mesures, toutes les précautions, ce que cela implique en termes de coûts aussi, à capacité réduite, etc., les aides, on peut les oublier.
Mais c'est le danger. C'est le danger que... Mais on comprend aussi. Il y a des impératifs économiques au plan national. Je peux très bien le comprendre. Mais si on est confronté à cette situation, vous ouvrez même partiellement et à ce moment-là, le soutien que l'on vous accorde disparaît. Là, ça va faire de gros dégâts.
Pour conclure, vous voyez quand même lueur d'espoir à un moment donné de rouvrir et de rouvrir correctement.
Ah ben, j'ai jamais perdu espoir. Jamais. J'ai toujours conservé l'enthousiasme. Comme vous le disiez, on n'a pas cherché cette période, mais on a fait en sorte de la convertir en quelque chose de très positif. Au sein de l'entreprise, il y a véritablement une dynamique, un engouement de la part de tous les collaborateurs. On est prêt. Donc... oui, on va réouvrir, on sera avec des arguments et des qualités nettement augmentées. On a essayé de faire visiter l'établissement au public et d'organiser des visites commentées, mais au final, ça nous a permis d'éditer un magazine qui explique tout l'établissement, salle par salle, quels sont les artistes, quels sont les travaux qui ont été effectués. On explique véritablement toute la genèse des grands buffets et toutes ses particularités. On voulait à tout prix renouer le contact, c'est ce qui prouve qu'on n'avait pas perdu l'enthousiasme. Mais on l'a, on est farouchement enthousiaste et c'est collectif. On travaille aujourd'hui sur la formation, il y a beaucoup d'envie derrière ça. Il nous manque évidemment le public, ce contact avec le public. On a hâte que le contact soit renoué, mais... on a axé toutes nos publications sur Internet sur ce thème-là. Gardons le moral. Nous l'avons gardé jusqu'à présent et on continue à le garder et à être extrêmement enthousiaste.
Bon. Et je suis persuadé que quand le premier client passera le portique d'Ozone et passera la porte...
On sera là pour l'accueillir et l'acclamer.
Monsieur Privat, merci beaucoup d'être venu donc nous parler donc de ce temps que vous avez pris donc pour au Grand Buffet pour reconstruire, construire un nouvel avenir, en tout cas un nouveau chapitre intéressant. Donc merci beaucoup.
Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.
Et à Dicias.
À Dicias.